Le grand témoin.
Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Dans ce studio avec moi, le professeur Kabuya Lumona Sando Celesta, professeur d'université, ancien directeur de cabinet adjoint du président Mobutu et porte-parole de la présidence entre 1992 et 97. Professeur Kabuya, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour madame, c'est un plaisir.
Avec vous, dans notre entretien, nous allons vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Vous allez nous parler de votre parcours aux côtés du président Mobutu. Comment vous l'avez rencontré? Il était quel type de personne? C'est tout à l'heure dans cet entretien. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 13 octobre 1948.
Exact.
Dans le Katanga.
À Chinkolobwe.
Dans l'ex-province du Katanga aujourd'hui.
Dans le Haut-Katanga aujourd'hui.
Alors c'est là où vous avez grandi?
J'ai grandi, parti à Chinkolobwe. Et dès l'âge de 8 ans, mon père, qui était agent donc à l'union minière, est muté à Kipushi, où je me suis épanoui.
Vous êtes épanoui à Kipushi, ça veut dire que vous avez fait vos études primaires et secondaires.
Ça veut dire que je termine mes études primaires à Kipushi, j'entre au collège à Lubumbashi, à l'école, au collège Saint-Grégoire-le-Grand, aujourd'hui Maïcha. Je termine mes humanités gréco-latines, puis je gagne Kinshasa, Léopoldville, pour l'université Rovaniemi.
Vous êtes venu à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, juste pour raison d'études?
Juste pour raison d'études à Rovaniemi.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
Comme tout enfant d'ouvrier, dans une cité ouvrière, heureux, avec des parents qui avaient effectivement un job stable, un salaire qui était certainement modique,
mais régulier.
Régulier, avec le fameux paternalisme connu de l'union minière, c'est-à-dire, bon, on avait quelques habits, on avait le pocho, on avait l'école. Et ça, je crois que c'était le plus grand acquis, puisque la santé et l'école étaient garanties par la société.
Quel souvenir vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Celui qui m'aura le plus marqué, c'est peut-être la souffrance de mon père, parce qu'il a eu les jambes irradiées par l'uranium, donc le radium. Comme il avait été mineur dans la mine, et je vois encore des moments où il devait se gratter, ses jambes partir démolies. C'est peut-être le souvenir le plus marquant, en famille du moins, en dehors évidemment. Bon, il n'y avait pas que ce souvenir douloureux, mais c'était un souvenir qui me poursuit encore.
Alors professeur, vous arrivez à Kinshasa pour poursuivre vos études universitaires. Au départ, vous aviez choisi de faire des études des sciences médicales.
Exact. J'entre en première BCG, donc première candidature des sciences naturelles médicales, où nous sommes ensemble avec les futurs chimistes, les futurs biologistes, les futurs pharmaciens. Et je fais ma première année, mais c'est une année terrible.
Pourquoi?
Puisque j'entre dans l'année 68-69, année qui va se clôturer par les fameux événements du 4 juin 1969, jour où nous sommes entraînés par nos leaders pour protester dans la ville. Et le 4 juin 69, ça a été le jour où on a tiré sur nos étudiants, sur nous. On a tiré sur nous alors que nous essayons de manifester à travers Kalamu, à travers Rêve, jusqu'à la gare centrale.
Manifester pour quelle raison? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire,
oui,
un bref rappel.
Un bref rappel. Le 4 juin 1969, jour de manifestation, évoque le jour où, après des négociations entre nos leaders, des étudiants des universités, des instituts supérieurs de la République et surtout de Kinshasa, il y a eu une grande négociation à Goma avec le ministre, je crois, Kitima Bin Ramazani, et il s'agissait de se battre pour un changement dans les milieux académiques. On réclamait par exemple la participation, on réclamait un peu plus de liberté. la participation qui voulait dire que c'était normal. Aujourd'hui, c'est acquis, hein. On voit des étudiants dans les conseils de faculté, on voit les étudiants et même aux réunions du comité de gestion. Eh bien, cette représentation-là n'existait pas. Et donc, on réclamait une certaine réforme de l'enseignement supérieur. Et il a été admis ce qu'on avait appelé la charte de Goma. Mais quand nos représentants sont revenus dans la capitale, l'autorité de l'époque a rejeté cette charte, n'a pas voulu de ça, et nous étions acculés donc à manifester. Parallèlement à ça, comme corps, comme étudiants, on réclamait évidemment les conditions de travail, pas seulement matérielles, mais l'organisation et l'intégration, l'implication des étudiants dans la gestion de l'université. Et il y avait évidemment un grand ras-le-bol parce que nous étions conscients qu'il y avait une dictature. Et c'est comme ça que nous sommes descendus.
Une dictature au niveau de l'université ou à travers le pays?
À travers le pays, les étudiants... L'UJEC.
Dictature par rapport à quoi? Parce que le président Mobutu venait à peine de prendre le pouvoir. 4 ans à peine qu'il venait de prendre le pouvoir.
Oui, le président Mobutu venait de prendre le pouvoir, mais le président Mobutu venait de supprimer l'Union Générale des Étudiants du Congo, surtout qu'après que l'Union Générale des Étudiants du Congo ait pris des options très à gauche, très, très progressistes, lors de son congrès de 1966. Et plus encore, le président Mobutu venait de créer, après les CVR, les corps des volontaires de la République, le président Mobutu venait de créer en 1967 son parti, le MPR, et il entendait que toute la jeunesse du pays
tout le monde était membre,
considéré comme membre de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, donc de la JMPR.
Les étudiants n'étaient pas d'accord avec cette décision.
Ça, les leaderships des étudiants à l'époque n'a pas accepté parce qu'on tenait à la caractéristique de l'UJEC et il y avait l'Union Générale des Étudiants du Congo qui était une union très implantée, très politique. Il y avait aussi pour nous de l'Ovanium l'Association Générale des Étudiants de l'Ovanium qui était plus syndicale, plus locale. Et donc les étudiants ont continué à fonctionner quand je suis arrivé à l'université en 68-69 dans ce cadre-là.
Et c'est ça qui vous a empêché de suivre le domaine que vous aviez choisi au départ, donc des sciences médicales.
Non, pour ce qui me concerne, j'ai fini mes 3 candidatures en médecine.
En médecine, ok.
Oui, j'ai fini. Je suis candidat en sciences naturelles et médicales, donc le diplôme reconnu après 3 années de médecine.
Ça, et après que vous avez fait les sciences, la sociologie.
Oui. Laissez-moi évoquer 2 événements.
Allez-y, professeur.
Le premier événement, nous venons d'en parler. Je suis simple étudiant en première année, le 4 juin 69. Donc là, nous suivons nos leaders. C'était Candolo François, c'était Milingo Valérien, c'était d'autres pour l'Ovanium et d'autres encore qui étaient de l'ENDA, qui étaient de l'IPEN, etc. Mais on a tué nos camarades. Et on n'a jamais eu de sépulture, on n'a jamais su exactement le nombre, etc. En 71, donc 2 ans plus tard, je suis en 3e année d'université et avec d'autres camarades, nous avons convenu de commémorer à la date du 4 juin 71 le souvenir, n'est-ce pas, de nos camarades morts et de procéder à une espèce d'enterrement symbolique. Ça, c'est la manifestation que nous avons organisée et exécutée le 4 juin 1971. Suite à ce mouvement, n'est-ce pas, qui était un mouvement strictement effectué sur le site de l'université Louvagnon, le pouvoir a essayé d'interdire cette manifestation en vain. Et bien sûr, comme militants engagés à l'époque, nous étions engagés pour toutes les causes nobles, n'est-ce pas, depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, depuis la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, les libertés à reconnaître aux femmes, il y avait toutes les causes réunies dans notre élan. Mais
parce que tous les étudiants adhéraient à vos idées, où vous aviez un groupe restreint.
Il y a eu à l'Ovanium une petite tradition que nous avons perpétuée de ce qu'on a appelé les cancres au maquis. Les cancres au maquis, c'était un groupe informel qui était, le titre nous l'avons trouvé, nous avons endossé ça et notre acte on les signait aussi, les cancres au maquis. Comme dans toute action, dans une collectivité, une communauté humaine, ce n'est pas tout le monde qui fait tout, n'est-ce pas? Mais je me retrouvais effectivement dans le groupe restreint d'une trentaine de personnes qui concevait, qui programmait, qui organisait différentes actions. On avait commencé par, en septembre, il ne faut pas oublier, quand le président Mobutu organise les élections, n'est-ce pas, hein, on a commencé par chahuter, donc on a créé un climat d'opposition sur le site du campus, tel que même lorsque il y a eu les élections présidentielles, par exemple, bon, les seuls bulletins rouges ont voté par bulletin rouge ou bulletin vert. Eh bien, les seuls bulletins rouges que la radio nationale a pu évoquer, c'était les bulletins rouges de l'Ovanium. Et donc, il y avait un climat. Quand le président Mobutu vient avec le roi Baudouin sur le campus, on l'a chahuté copieusement. Donc, il y avait une poche de résistance qui était dirigée contre le pouvoir établi.
Vous n'aviez pas peur de perdre votre vie à cause de ce militantisme?
Ben écoutez, madame, c'est peut-être la chance et l'énergie de la jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, disons près de 50 ans plus tard, quand j'y pense, je me dis, mais enfin, comment on a pu faire ça? C'est vrai. Mais sur le moment, bon, on y croyait, vous savez, on y croyait. On savait qu'on n'avait rien à gagner, rien à perdre. Mais on savait qu'il fallait dénoncer un régime qui était réputé mauvais. Le 4 juin 71, dans la nuit, pendant qu'on fait la veillée, il y a un incident qui se produit. Quelques camarades organisés en vigile, n'est-ce pas, découvrent un agent des services de sécurité qui était certainement en assignation pour voir ce qui se passait. Ils ont pu hélas le détecter, on l'a lynché copieusement, on a brûlé le véhicule à bord duquel il était, et le monsieur a été acheminé, n'est-ce pas, auprès de, disons, de l'équipe organisant les manifestations. Et ça je suis témoin avec d'autres directs, puisque quand on nous amène ce brave monsieur qui venait hélas de passer un mauvais quart d'heure entre les mains des étudiants, nous, conscients du risque pour sa vie, nous nous sommes arrangés pour le confier à un de nos camarades qui est malheureusement décédé. C'était le camarade Chinkwela, n'est-ce pas, qu'on appelait Mao. On lui a dit secrètement, écoute, tu prends ce monsieur, tu essaies de le sortir du campus. Comme lui, il avait une certaine notoriété, il était très populaire. Nous, on était un peu des clandestins. Je crois que sur 100 étudiants, il y en avait peut-être un qui pouvait savoir que moi, Kabuya Lumuna, j'étais dans de telles actions. Bref, c'est Chinkwela, donc Mao, qui s'est chargé de l'extirper. Et le monsieur nous a remercié chaleureusement, il y avait de quoi, et il est parti. Mais le lendemain, pendant que nous organisons la manifestation, je suis à la tête avec un autre camarade, le docteur Sonji d'ailleurs, nous portons le cercueil symbolique, hein, nous allons à la messe, nous entrons, le curé n'avait de choix que de célébrer une messe. Nous sortons et nous procédons à un enterrement symbolique devant le building administratif. Donc là, on a suscité, on a stimulé de façon que les étudiants se sont appropriés le mouvement et tout le monde s'est retrouvé en train de construire ce petit mausolée symbolique. Et on a enterré le cercueil qui était vide.
Ça n'a pas enchanté
pouvoir. Ça a inquiété parce qu'une rumeur a couru que c'était l'agent de service qu'on avait tué et qu'on venait d'enterrer pour venger nos camarades. L'armée est intervenue l'après-midi du 5 juin, il y a eu escarmouche, et bon, finalement le calme. On est venu arrêter le curé de l'Ovanium, hein, qu'on appelait grand frère. Tout cela créait une tension, et finalement on a appris qu'il y avait réunion extraordinaire du gouvernement qui a décidé de l'enrôlement des étudiants
dans l'armée.
Et le 6 juin, les événements donc se passent entre le 4 et le 5 juin, et le 6 juin, nous apprenons que tous nous sommes enrôlés à l'armée pour apprendre la discipline. Et moi, je me retrouve donc d'abord au camp Seta et puis au camp Tchatchi. Et pendant qu'on était arrêtés, donc tous enrôlés, des exercices physiques, etc., tout doucement, le pouvoir s'est mis à chercher qui étaient les meneurs.
Et ils sont tombés sur vous ?
Entre autres.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait de vous ?
Dans un premier temps, nous nous retrouvons une petite trentaine dans un bâtiment du camp Tchatchi, qui d'apparence c'est une maison, mais qui s'est révélée être un solide cachot avec cave. Puis, de là, on nous a amenés devant les magistrats qui nous jugeaient, enfin qui nous interrogeaient, au camp de l'Oyua. Au bout de un mois, je crois, il y a eu le procès qui a été organisé ici devant le tribunal de grande instance qui siégeait à ce moment-là dans les bâtiments de la SANEF.
Et comment vous vous retrouvez en Europe après tous ces événements?
C'est en janvier 1973, n'est-ce pas, que nous sommes graciés et on nous relaie, on nous demande de regagner chacun son patelin. Et je me retrouve à Kipushi.
C'est la famille, disons, qui vous a envoyé en Europe.
La famille, c'est même trop dire. Bon, la famille, disons les amis. Il y a eu des amis, n'est-ce pas, qui se sont arrangés. Pour que je puisse avoir une inscription à l'Université catholique de Louvain, et deux, pour que je puisse bénéficier d'une bourse une fois arrivé à Louvain. Mais les amis sur place m'ont aidé pour trouver un billet. Et c'est comme ça que, avec un autre camarade, nous nous sommes retrouvés à l'Université de Louvain.
C'était un peu pour votre sécurité que vous êtes parti en Europe?
Ah, écoutez, sur le moment, on était devant un mur.
Et en Europe, vous poursuivez vos études?
En Europe, j'arrive et...
En Belgique, précisément.
J'arrive en Belgique, effectivement, en plein automne, avec un retard de 2 mois, et nous nous battons. Mais très vite, je comprends que la médecine, ce n'est plus mon chemin. D'ailleurs, j'ai échoué la première année, et j'ai changé... Donc j'étais en premier doctorat, j'ai changé de cap, et à ce moment-là je vais vers les sciences humaines, n'est-ce pas, une licence en sciences du travail et puis une licence en spéciale en sciences sociales et
un doctorat en
sociologie politique.
Vous restez plusieurs années en Europe avant de vous décider de rentrer au pays.
Oui, parce qu'en Europe, je n'ai pas seulement la chance de poursuivre des études, je me marie, madame. Je me marie et de la faculté de médecine, j'ai gagné au moins une chose, c'est une charmante épouse, belge, qui deviendra médecin et qui me soulagera de cette vocation, n'est-ce pas, de médecin, qu'elle était médecin, donc moi je pouvais...
Comme vous avez raté cette vocation.
Oui, je pouvais m'occuper plus allègrement de ma passion pour la chose publique, n'est-ce pas. Et voilà comment je me suis retrouvé de 73 à 89. J'ai vécu en Belgique, faisant mon doctorat, m'appliquant à des publications. J'ai publié à ce moment-là, après la question tribale, j'ai en 1980 publié une étude que j'ai intitulée « Misère de l'opposition et faillite de l'État ». Vous vous rendez compte, nous qui étions dans le camp de l'opposition, voilà que je jette un pavé dans la mare où j'ai analysé toutes les forces de l'opposition qui existaient à l'époque, n'est-ce pas? Et j'ai dit, il y a une grande misère dans l'opposition, comme il y a une grande faillite au niveau de l'État.
Alors, professeur Kabuya, vous êtes auteur de plusieurs publications. D'ailleurs, vous avez parlé des deux de vos ouvrages.
Les premiers, oui.
Mais vous avez écrit aussi d'autres ouvrages par après. En 1988, vous rentrez au pays.
Je rentre au pays fin 88. début 89, je commence à travailler et j'ai la chance de réussir un concours de recrutement pour un projet Banque mondiale. Et je gagne donc le recrutement comme coordonnateur du programme d'ajustement des secteurs sociaux, le PASS.
Professeur Kabuyal Mouna, on va souffler un peu. Vous aimez écouter quel genre de musique?
J'aime la musique. Depuis la musique classique de Handel, Beethoven, Bach et les autres, jusqu'à la musique congolaise de Kofi ou de Franco ou de Rochereau, j'aime toute la musique du moment qu'elle est agréable.
On va demander à Dieudonné Nyangasa qui est de l'autre côté de la baie vitrée de nous proposer une belle petite musique pour le plaisir du professeur Kabuya. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui le professeur Kabuya Lumuna Sando Celestin, professeur d'université, ancien directeur de cabinet adjoint du président Mobutu et porte-parole de la présidence entre 1992 et 1997. Professeur Kabuya, racontez-nous comment vous vous retrouvez finalement aux côtés du président Mobutu alors que vous l'avez combattu.
Je l'ai combattu, il m'a fait rater. Et quelques bons moments de ma jeunesse.
Il vous a fait arrêter, voilà, oui. 2 ans en prison.
Un de mes proches parents est dans l'appareil. Et ce parent vient me dire un jour, le président Mobutu a demandé à tous les certains de ses personnes, de son entourage, de lui proposer un schéma de libéralisation. Comme toi, tu as toujours été opposant d'opinion, tu as écrit quel changement, hein? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Bon, la question était à la fois passionnante, puisque ça entrait dans mes fibres d'un souhait de changement, et j'ai effectivement rédigé une note, mais c'est mon parent qui a signé la note. J'ai présenté un schéma, j'ai montré ce qui était pour moi une clé de sésame, pour casser avec le régime et les institutions établies et aller vers une libéralisation. Et mon proche parent, tout heureux de la note qu'il a signée au nom de ses fonctions, etc., il s'en va à Goma parmi d'autres personnalités et il présente la note. Et à sa grande surprise, le président appelle son conseiller spécial qui est Kema Lilo et il lui dit: des notes que j'ai reçues, je trouve qu'il faut approfondir la note de tel. Et le tel là se trouve être mon parent. Et le tel là, il dit, bon, moi je sais qui a fait cette note et je ne me sens pas, moralement, intellectuellement capable d'aller endosser, approfondir une note en fait qu'on a faite pour moi. Voilà l'histoire un peu insolite qui va faire que mon parent, avec une grande honnêteté intellectuelle, va confier mon secret à Kemalilo.
Inke Malilo me convoque au CNS. Est-ce que c'est vous, Kabuya Lumumba? Oui, c'est moi. Voilà ce qui se passe. Bon, évidemment, j'étais furieux un peu. Ça, c'était une situation tout à fait inconfortable. Mais néanmoins, Kema me séduit, vraiment. Il a agi avec beaucoup de tact. Il m'a d'abord entraîné dans un petit débat d'intellectuel pendant une heure ou deux. J'ai été fasciné par son intelligence, par sa perception des choses. Et j'étais même étonné qu'autour de Mobutu, il existât, n'est-ce pas, de tels cerveaux. Bref, ce coup de foudre intellectuel nous rapproche et il me propose de participer à l'évaluation des consultations.
Vous acceptez?
Oui, bien sûr. Et voilà comment
sans hésiter, parce que vous étiez charmé par...
Sans hésiter, parce que je suis charmé par l'intelligence d'un Kema, mais aussi parce que la tâche me paraît stimulante. On partit des actions de changement par la violence, je n'ai jamais été vraiment violent, à part quand je fais mes arts martiaux, même alors, mais je me dis, tiens, il y a donc moyen d'arriver au changement, vite, même si c'est la volonté du pouvoir lui-même, mais bon, on va créer la démocratie. Et on me demande à moi de participer dans les cellules restreintes qui va concevoir un schéma crédible. J'y ai perdu beaucoup dans l'estime, dans le regard de mes anciens camarades, mais je dois reconnaître en toute franchise, j'ai été assez passionné et j'ai accepté donc...
On vous a qualifié de traître, corrompu par le pouvoir.
Pas à ce moment-là, parce que ça se fait secrètement. Pas à ce moment-là, donc je vis cette passion en secret. Pendant le jour, tout le monde me voit travailler sur mon programme avec la Banque mondiale, n'est-ce pas? Et donc, c'est généralement la nuit que je me retrouve en train d'évaluer. Et donc, je suis aussi dans le laboratoire, évidemment, qui analyse les différents mémoranda qui sont déposés.
Et c'est comme ça que c'était parti, votre rapprochement.
Et c'est comme ça que... Remarquez que jusque-là, je n'ai jamais vu le président Mobutu. Jusqu'à ce stade-là, non. Au moment où maintenant, on nous donne la tâche de préparer l'aide mémoire au président, il y a un va-et-vient entre le président et notre cellule, mais c'est Kema Lilo qui prend nos projets, qui va voir le président, qui ramène les remarques du président, et etc.
Mais à quel moment vous avez rencontré personnellement le président Mobutu?
Plus tard. Je sais que le 24 avril, ne fût-ce que par reconnaissance, c'est un minimum, on me donne aussi la chance historique d'être dans la salle, en scellé. Et beaucoup de gens d'ailleurs s'étonnent, qu'est-ce qu'il vient faire là-bas. Donc je suis aussi dans la salle pour suivre le discours du changement. J'en sors meurtri et je me retrouve dehors avec l'ambassadeur Kema. J'ai dit, mais tout ce que nous avons réfléchi n'a pas été retenu. Ce qu'il faut peut-être faire comprendre au-delà de ça, c'est que le débat de l'époque divise deux camps chez le président Mobutu. Il y avait le camp qui disait, oui, changeons, mais contrôlons. Et donc, concrètement, multipartisme, oui, mais limité. Face à cette tendance, c'est-à-dire pour nous, on disait, il faut ouvrir. Il fallait obtenir que le chef de l'État quitte le parti de façon à libérer l'État du parti, puisqu'on était dans le parti-État. D'où la formule célèbre qui m'émeut toujours moi-même, hein, le président se met au-dessus de la mêlée. C'était la thèse que nous suivions. Et on disait, bon, à ce moment-là, multipartisme intégral, on ouvre un forum national, conférence nationale, avec tout le monde, et on était convaincu que le chemin de la libéralisation serait plus clair et que le président Mobutu lui-même en sortirait grandi. Bref, ce débat-là nous a beaucoup divisés. Pas moi, moi j'étais dans l'ombre. In fine, on a été battus. Le clan qui deviendra d'ailleurs le clan des, disons, des faucons, finira par dire que Malilo est allé trop loin. Quand on sort de là, 15 jours après que Malilo sera envoyé ambassadeur, moi, dans mon coin, je retourne à mes... Je continue avec mes activités à la Banque mondiale. Et je me dis, bon, c'est terminé, quoi. On a échoué. Et effectivement, c'est quand ils voient les déboires après la conférence constitutionnelle, quand ils voient que la limitation à 3 crée des remous, les mouvements étudiants, on moleste des députés, etc., que le président est acculé à convoquer d'abord à modifier la loi sur les partis et à créer le multipartisme intégral, ensuite à convoquer la conférence nationale, c'est dans cette deuxième partie du processus que je vais avoir, moi, la chance de rencontrer le président Mobutu pour la première fois.
C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui avez cherché à le rencontrer? Ça s'est passé comment?
Oui, ma première rencontre avec le président Mobutu se passe sur le bateau. Nous sommes en pleine conférence nationale. J'ai réussi à être membre de la conférence nationale comme président d'une petite association tout à fait savante, n'est-ce pas, qu'on appelait Piro, où je me retrouvais avec les Ndundu, avec d'autres personnalités, n'est-ce pas, assez connues. Mais j'ai compris après que, bon, disons que on m'avait amené à être là. Et un jour, il y a un débat et on nous dit, on vient me dire, écoutez, le président reçoit quelques groupes, dont nous. Et je me retrouve sur le bateau. Et je vois le professeur Mokonda qui, à un moment donné, après avoir assisté à un débat assez houleux où j'avais une thèse que je défendais, et je vois un coup Mokonda qui dit ah, Kabuya, oui, Kabuya, oui, Kabuya, et c'est le président Mobutu qui me cherche. Et ça a été mon premier face-à-face sur son bateau où il a voulu entendre mon développement face aux autres, où il y avait les Chimbombo Mukuna et Bandamukala et les autres leaders du parti impair. Et là, donc, il me découvre pendant que j'explique ma position face à un des problèmes qui se posait.
Vous l'avez fasciné par votre réflexion?
Je ne sais pas. En tous les cas, je sais que il m'a écouté attentivement et j'ai la fierté de penser que je les avais convaincus. Et quand je sors de là, n'est-ce pas, bon, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus un cadre où je travaille pour le processus du changement. Jusque un jour, je suis en pleine conférence, je reçois mes enfants qui viennent de Belgique.
En parlant des enfants, vous en avez combien? Juste
aujourd'hui,
une parenthèse.
Aujourd'hui, huit. Et à l'époque, donc, je subis une agression armée dans ma maison. Nous sommes en 92. À peine ils sont là, et puis, bon, j'entends un autre groupe qui vient, soi-disant, nous sortir de ses guépiers. Mais ce groupe-là nous enferme tous, domestiques, sentinelles, femmes, enfants, tous dans ma chambre, et ils pillent. On me pille complètement. Et à ma grande surprise, je vois Issa Yongo, que je ne connaissais pas à ce moment-là, qui vient me dire « Ah, on vous appelle en cellule. » Et là, je me retrouve devant le président Mobutu. Il me dit « Ah, c'est vous, professeur Kabuya ?» Je dis « Oui ». Il dit « Oui, j'ai appris ce qui s'est passé. Comment va madame? Est-ce qu'elle se remet ?» Et tout. Je dis « Non, ça va. Et qu'est-ce qu'on a fait ?» Bon, je lui décris télévision, musique, tout ce qu'on a pillé. Et il me remet une enveloppe. Il dit « Voilà, en compensation de tout ça. » Je me souviens plus tard, le général Elouki qui me dit « Ah, c'est eux qui ont fait ça, c'était pour t'avoir. » Je dis « Ok, mais du moment au moins qu'on a fait une compensation. »
C'est la question que je voulais vous poser, c'était pas voilà. Une façon eux de vous avoir, de vous attirer.
Madame, nous sommes en train de parler très spontanément. Bon, je raconte peut-être avec beaucoup de naïveté ce qui m'est arrivé, mais c'est ça qui m'est arrivé. Bref, peu de temps après, je vois un ami, Kinkie Mulumba, avec qui j'ai travaillé à ce moment-là dans son journal interviewer, etc., qui vient me dire, ah, il faut accepter, on veut te prendre au cabinet du chef de l'État. Je dis non, non, je refuse. Je vois mon ami Nyamwisi Moving, avec qui j'aimais bien débattre, qui vient aussi me parler. Je vois un autre ami, Yawili, qui vient me voir. Je refuse. On m'amène un jour chez... Je refuse. J'ai compris qu'on voulait à tout prix que j'entre au cabinet.
Je refuse. Mais finalement, vous avez fini par céder.
Madame, j'ai compris que j'avais intérêt à accepter, d'autant qu'à ce moment-là, j'étais moi-même aussi content du fameux compromis politique global du 31 juillet qui exigeait que le président intègre dans son entourage toutes les tendances. Et c'est comme ça que je vais me retrouver, malgré quelques hésitations ou même des refus exprimés, je vais écouter un jour la radio qui annonce, tiens, je suis nommé directeur adjoint du cabinet du président de la République et porte-parole.
À votre insu, vous n'étiez pas informé. Vous avez appris ça à la radio.
Oui, oui, la décision, je la prends. Mais le projet, oui. Je viens de vous dire,
vous avez parlé
on
du
en
projet.
Discutait, oui. Mais je m'attendais à ce qu'ils attendent ma réponse.
Votre réponse, voilà.
Oui, oui, mais c'est sorti comme ça. Je dis, ok, on y va. Voilà comment je me retrouve collaborateur, cette fois-ci officiel, du président Mobutu, n'est-ce pas? Le cabinet était déjà d'ailleurs formé. On m'amènera à Guadolité pour prêter serment comme quatrième directeur adjoint, mais surtout comme porte-parole. Parce que c'était la fonction qui était visée.
Et depuis cette année-là, vous êtes resté avec le maréchal.
De 92 à 97.
À 97, vous êtes resté avec le maréchal. Vous avez travaillé avec lui.
Là,
vous avez étudié l'homme.
Là, j'ai appris à être avec l'homme, à le voir rire, manger, réfléchir, commander.
Est-ce qu'il était différent de celui que vous avez connu lorsque vous étiez étudiant?
Très différent. Son image, l'image que j'avais de Mobutu dictateur et l'image que j'ai eue de mon chef direct, c'est deux images complètement différentes.
Vous le dites peut-être parce que vous avez travaillé avec lui, parce que vous étiez dans son cabinet.
Je le dis parce qu'il faut témoigner.
Alors que la population disait qu'il était dictateur.
Sûr. Mais bien sûr, madame, nous sommes en train de parler. Quand j'arrive, Mobutu est en train de se démocratiser. Mm-hmm. Hein? Il n'est plus le grand léopard qui décidait souverainement. Il est soumis à une conférence nationale. Il est soumis à une pression internationale. Il sait qu'il n'est plus utile dans la guerre froide. Il sait qu'il n'a plus le soutien des Américains. Donc c'est un Mobutu que j'ai eu la chance de connaître, peut-être un peu plus humain, un peu moins sûr de son fait et soucieux de réussir la démocratie qu'on lui imposait.
On dit vers la fin de son régime, le président Mobutu n'était pas prêt à lâcher le pouvoir.
Non, ça c'est peut-être une caractéristique que j'ai observée. Je savais par ma théorie en sciences politiques que la pensée d'Aristote qui nous a dit « Méfiez-vous de l'homme politique parce qu'il n'a de cesse que d'usurper l'éternité des dieux. » L'homme politique veut être éternel. Mais avec le président Mobutu, c'est vrai, j'ai vu qu'il s'identifiait tellement au pouvoir qu'il ne pouvait pas s'imaginer ou qu'il avait difficile à s'imaginer hors du pouvoir. Donc c'était un autre homme que je découvrais, une autre forme d'intelligence que je découvrais, parce que comme travail intellectuel, écoutez, vous alliez avec un document, il le lisait, il vous donnait la réponse.
En 1997, le régime de Mobutu est renversé par l'AFDL. Est-ce que vous êtes allé aussi en exil ou vous êtes resté sur place?
Madame. Non, non, là je suis sauvé. Je suis sauvé des deux côtés. Je suis sauvé des deux côtés. Parce que j'ai eu une chance. C'est le président Laurent Désiré Kabila qui m'envoie un émissaire pour dire, allez dire à mon petit frère là, parce que il m'a connu en Belgique, je vous ai dit, au moment où nous étions des militants derrière, on n'a pas vécu avec lui, mais il savait qui est Lumumba Sando par les écrits, etc. Et on a eu un seul contact à l'époque. Et il a dit, allez dire à mon petit frère là que je ne saurais pas le protéger. Donc d'un côté, j'ai le son de cloche de celui qui arrive, qui dit, petit, je ne pourrais pas te protéger.
Même si nous sommes de la même province.
De la même tribu madame.
Aussi.
Et même si je sais que tu as eu un passé de militant, mais tu nous as trahis. Ok. En même temps, c'est comme c'est un témoignage, c'est le président Mobutu qui me téléphone d'où il était. Et il voit qu'il appelle, c'est lui, et il me passe son fils Zanga. Où est-ce que vous êtes? Bon, j'ai appris qu'il a téléphoné aussi à d'autres, mais en tout cas, je témoigne pour ce qui me concerne. Ouais. Et c'est lui qui s'étonne que je sois encore à Kinshasa. J'ai dit, mais enfin, on ne m'a rien laissé, je n'ai pas les moyens et tout pour partir. Et suite à ces deux appels, je me sens évidemment coincé et je m'en vais chercher une solution rapide et je me suis retrouvé sur une pirogue. Je me suis retrouvé sur une pirogue, madame, pour traverser vers Brazza. Et je suis parti en exil où je suis resté quelques mois avant que le président, Laurent Désiré Kabila, ne m'appelle.
Donc vous étiez à Brazzaville, à côté ici, quand le régime est arrivé. Ou bien à partir de Brazza, vous êtes...
Non, le jour même où je traversais, le soir je prenais l'avion.
Alors le régime Laurent Désiré Kabila arrive, vous étiez en exil quelques temps après, quelques mois après, Laurent Désiré Kabila fait appel à vous pour venir travailler avec lui.
Pendant que je suis en exil... j'ai fait deux publications. Mon action politique se traduit souvent par des publications. Je venais d'écrire les conflits de l'Est, repères et enjeux, au moment où il venait. Je crois que le président Laurent Désiré Kabila a pris connaissance de cet ouvrage. Il a su que je distinguais bien l'action de libération qu'il avait de l'action d'occupation par les Rwandais qui accompagnaient. Et j'étais assez clair pour dire que, bon, l'accompagnement des Rwandais allait poser problème parce que leur idéologie, leur démarche et même leur prétention à occuper et à changer la frontière nous amenait à d'autres combats que celui de la démocratisation. Comme c'est arrivé plus tard, je vois un de ses proches qui m'appelle, je suis à Bruxelles donc chez moi, et il dit, ah mais voilà, tu avais écrit conflit de l'Est, ok, mais on nous dit que on nous a envoyé ici des exemplaires, tu viens encore d'écrire la transition et lettre ouverte à Laurent Désiré Kabila. Je dis oui, et j'ai écrit une lettre ouverte au président. Ton grand frère, le président, il a lu et il m'a dit ceci. Dites à ce petit de venir. Il dit quoi? Moi, venir là-bas? Il dit oui. Il te demande si tu peux venir. J'ai dit, je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'il attendait de vous, exactement?
Je dois dire que j'ai commis là peut-être une des nombreuses erreurs que j'ai pu commettre dans mon parcours. Parce que le président, il me regarde dans les yeux. Il dit, mais alors, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon erreur que j'estime aujourd'hui, c'est qu'au lieu de lui dire... Donnez-moi tel poste, j'ai philosophé. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je viens de laisser en Europe les anciens notables qui ont dû s'exiler. Parmi eux, il y en a qui veulent travailler avec vous, mais il y en a aussi qui sont très hostiles. Et ils risquent de vous préparer un mauvais pétard. Permettez que je travaille sur le rapprochement avec vous. Je crois que ça soulagera. Il me regarde, il dit quoi? Il y en a qui sont prêts? Je dis oui. Il dit ok, je vais t'envoyer. Et on a travaillé sur ce projet du rapprochement. Et je suis allé, il a donné les moyens, je suis retourné en Europe, j'ai vu les Pai Pai, j'ai vu les Mwando Simba, j'ai vu les Mokolo Apombo, j'ai vu les Birindo. Bref, tout le monde, mais ça a été l'échec. Et mon échec, je l'ai vécu très douloureusement. Mais enfin, je n'ai rien à cacher, mais bon.
Professeur, c'était un plaisir. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son, micro qu'elle écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.